Vous écoutez
RMC. RMC, midi 15h. Estelle Midi.
Estelle Denis.
C'est la dernière partie d'Estelle Midi. On est ensemble jusqu'à 15h avec Martin Bourdin, Laurent Dandrieux, Catherine Rambert et Pierre Rondeau. On est avec vous également au 32-16 pour réagir à notre dernier débat. Dans un instant, faut-il autoriser la pratique du sein nu à la piscine? Et oui, parce que ça va être le cas. En Allemagne, faut-il faire la même chose en France? Il y aura vers 14h30 les immanquables sélectionnés par Martin Bourdin, les infos qu'il ne fallait pas rater aujourd'hui, avec 6 Français sur 10 qui regrettent déjà d'avoir changé de travail pendant la pandémie, et puis la baisse de ma prime rénove à partir de dimanche. Et puis on terminera avec le quiz. Martin, et un très beau séjour à gagner.
Une semaine pour 4 personnes dans un centre VVF. Il y a plus de 100 destinations partout en France. Vous en choisirez une pour profiter d'activités en plein air, d'activités en pleine nature, d'activités sportives également. Le tout en pension complète pour tenter de gagner ce séjour d'une semaine pour 4 personnes. Vous envoyez quiz par SMS au 732-16, quiz par SMS au 732-16, ou alors vous nous appelez directement au 32-16 et vous appuyez sur la touche 4.
Et on va passer tout de suite dans Estelle Midi à l'autorisation du jour. Et elle fait beaucoup parler, cette autorisation. C'est en Allemagne. La ville de Göttingen vient d'autoriser la pratique du sein nu dans les piscines. Le but, Martin Bourdin, promouvoir l'égalité entre les sexes.
Tout est parti d'une polémique qui avait eu lieu à l'automne à la piscine de Göttingen, une commune située en plein centre de l'Allemagne. Un agent demande à un baigneur de recouvrir son torse. Il pense que c'est une femme, sauf que le baigneur en question s'identifie comme un homme. Il refuse donc de se couvrir le torse et finit par être interdit d'accès à la piscine. Gros débat au sein de la municipalité de Göttingen, qui a donc décidé, au nom de l'égalité, d'autoriser les femmes à se baigner seins nus à partir de dimanche, uniquement les week-ends, et jusqu'à fin août. C'est la première ville à prendre une telle décision en Allemagne. Ça existe déjà en Espagne. À Barcelone, toutes les piscines municipales ont dû retirer les règlements anti-topless en 2019. En France, les seins nus à la piscine, c'est non. Les maires sont tenus de faire interdire cette pratique.
Ah oui.
Ça peut être autorisé sur la plage. En revanche, même si par endroit, des arrêtés municipaux interdisent cette pratique, il faut donc regarder les panneaux à l'entrée des plages. Reste que de moins en moins de femmes semblent adeptes de la bronzette seins nus en France. Une femme sur 3 faisait tomber le haut en 2009, une sur 5 simplement l'année dernière.
Catherine Rambert, pour ou contre la pratique du sein nu à la piscine?
Pour, évidemment. Bravo les Allemands, bravo les Espagnols. Au nom de l'égalité des femmes, femmes-hommes, les femmes doivent pouvoir faire ce qu'elles veulent comme les hommes. J'ai rien à ajouter et j'allais dire, ceux que ça gêne peuvent partir. Mais là, ce qui me gêne un petit peu, j'en fais un principe parce que on sent bien qu'il y a insidieusement une pression croissante sur la tenue des femmes. Et ce n'est pas que sur le topless, c'est sur la longueur des jupes, la hauteur des talons, la profondeur de la décolleté. Je parle même pas du voile. Donc, on parle de plus en plus à propos des femmes de tenue décente. Eh bien non, désolé, les femmes s'habillent comme elles veulent à partir du moment où c'est décent, mais j'allais dire comme les hommes. Et je trouve qu'au nom de l'égalité, eh bien, il faut, oui, ce serait bien qu'elles puissent être topless, puisque les hommes sont topless aussi, finalement. Ce qui m'embête juste, moi, c'est que ce soit encore cantonné à des jours. Voilà, hein, mais bon, je pense que ça va se
passer. Parce qu'il y a des créneaux, hein, c'est ça.
Des créneaux et des jours, voilà. Mais attention à cette pression insidieuse sur les femmes. On revient à des jugements qui sont pour moi une petite régression. Donc je dis oui, 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 tout ce qui va pour l'égalité homme-femme, pour moi, ça me paraît aller dans le bon sens.
Après, la pression, c'est les femmes aussi qui se la mettent elles tout seules, parce que Martin le disait, voilà, il y a 3% moins de femmes qui
se mettent les femmes ne se mettent jamais la pression seule, c'est toujours une pression qui vient d'ailleurs. Hein. C'est-à-dire que c'est
oui, mais personne n'empêche aux femmes de faire du topless sur la plage, par exemple. Vous voyez ce que je veux dire?
Eh bien si, figurez-vous qu'il y a des pressions, qu'il y a des réflexions, c'est pas si simple.
C'est ce
sur
que
les plages publiques, sur les plages publiques, les femmes se font faire, ont des réflexions quand elles sont topless. Donc c'est pas, les femmes s'interdisent parce qu'elles sentent bien qu'il y a une espèce de réprobation.
Moi, j'ai pas envie. Vous voyez ce que je veux dire? Moi, j'ai jamais fait du topless parce que j'ai pas envie. Il peut y avoir aussi ça.
Là, c'est OK.
Mais j'ai cette liberté.
Mais il y a une préprobation ambiante. Je crois, apparemment, il y a des témoignages en ce sens.
Effectivement, alors, il n'y a aucune loi officielle. On l'a dit, hein, c'est des arrêtés municipaux qui peuvent interdire le topless sur la plage. Mais effectivement, c'est ce que nous dit Nathalie, ce que tu disais, Catherine. Le sein nu à la piscine en France, pour elle, c'est une blague. On peut déjà plus faire de topless sur la plage sans se faire insulter. Voilà ce qu'a vécu Nathalie quand elle est allée sur la plage pour bronzer topless.
Est-ce qu'on est devenu une société trop pudique, Laurent Dandrieux?
Oh, je pense pas que ce soit la caractéristique dominante, la pudeur de la société.
Bah, j'ai l'impression que ça revient, au contraire.
Ça revient, oui. Alors après, trop, je pense qu'on est peut-être allé aussi trop loin dans l'excès inverse. En tout cas, ce que je trouve frappant, c'est qu'effectivement, beaucoup des jeunes femmes, quand vous écoutez les reportages sur ce sujet-là, beaucoup de jeunes femmes, il y a effectivement la problématique de le harcèlement, des femmes importunées ou des agressions, mais il y a aussi des femmes qui mettent tout simplement en avant l'argument de la pudeur et qui considère que pour elle, non, ça n'est pas pudique. Et donc ça, je pense qu'il faut l'entendre aussi.
Parce c'est vrai qu'on voit plus de jeunes femmes seins nus.
Catherine parlait de la décence. La décence, c'est une notion à géométrie variable suivant les époques. Voilà. Et donc, il faut trouver un consensus où tout le monde s'accorde sur ce qui est décent ou ce qui ne l'est pas. Mais c'est vrai que...
Mais vous êtes pour ou contre, par exemple?
Moi, ce que je trouve, c'est que... D'abord, c'est un truc un peu has-been, quand même. C'est-à-dire qu'effectivement, on sent bon, bien ça. Que c'est plutôt les anciennes générations qui sont intéressées par le topless plutôt que les jeunes qui sont pas très très demandeurs ou demandeuses. Moi personnellement, quand je vais dans mes plages du côté dans mon cantonien, j'en vois pas beaucoup. Je n'ai pas l'impression que ce soit
en Bretagne non plus, mais c'est le froid.
Ouais,
enfin, c'est pas que le soutien-gorge tienne chaud, mais enfin.
Dans les anciennes générations, Laurent, je me permets de rebondir sur ce que tu dis. Tu n'as pas tort, bien sûr, mais il y avait moins de pression. On était dans la génération, je parle même de la génération de mes parents, hein, de ma mère et tout, de la génération de libération un petit peu. Donc on était dans ce mouvement-là.
C'était un symbole de liberté aussi.
Voilà. On ne peut pas nier qu'il y a aussi une régression due à certaines communiqués qui ne tolèrent pas la liberté pour les femmes. Et c'est là où on parle de décence. Et moi, ce mot décence, il me scandalise pour les femmes puisqu'il n'est pas appliqué aux hommes. C'est tout. Après, qu'elles soient pudiques, qu'elles n'aient pas envie. Il y en a qui veulent cacher leur corps, cacher des défauts. Là, chacun fait ce qu'il veut. C'est juste pouvoir le faire en toute liberté. C'est tout.
Alors, Pierre Rondeau.
Oui, alors je reprends les propos de Catherine, mais moi.
Ils sont très intéressés sur la question.
Oui, très très intéressés, toujours. Mais alors, moi, si on pose la question directement, moi je suis pour, contre, je laisse simplement la liberté aux femmes de choisir ce qu'elles veulent faire, si elles veulent porter ou pas un maillot de bain, une pièce ou deux pièces.
Elles ont cette liberté, pardon.
Eh bien, je leur accorde.
Moi, je leur accorde.
C'est bon, voilà. Si vous voulez. Mais moi, je veux juste reprendre sur la question de l'égalité. Dire qu'au nom de l'égalité, les femmes devraient pouvoir se vêtir comme les hommes et donc à partir de là être topless puisque les hommes par définition le sont et montrent leur torse, les femmes devraient aussi le faire. Mais est-ce que l'égalité, c'est pas aussi de reconnaître les différences? Est-ce que l'égalité, de fait, sémantiquement, c'est-à-dire on est tous égaux, quelles que soient finalement nos différences? Et nos différences, c'est bien de considérer que le torse masculin n'a pas la même représentation sexuelle que le torse féminin. Que le torse féminin, que les seins, par définition, ont une image, ont une représentation sexuelle
donc,
que le torse masculin.
Pour vous, c'est un problème de désir, en fait.
Mais non, ce que je veux dire, c'est qu'au nom de l'égalité, l'égalité, c'est pas de dire on est tous pareils. Un homme est différent d'une femme. Une femme est différente d'un homme. On le voit aussi à travers le sport.
C'est pour ça que la notion de pudeur intervient.
C'est-à-dire voilà. Et donc, c'est pour ça que je pourrais comprendre que des gens soient dérangés. C'est pour ça qu'il y a des créneaux.
Ou alors on met les soutiens-gorge aux mecs.
Non mais justement parce qu'on n'est pas pareil. L'égalité et moi que je défends l'égalité de traitement, de considération, de jugement, c'est justement d'intégrer cette différence. C'est de dire qu'un homme n'est pas une femme,
entièrement
et une femme n'est pas un homme.
Non mais l'égalité c'est l'égalité dans la liberté, liberté de pouvoir faire ce qu'on veut.
C'est
en
pour
fait.
Ça que je défends cette liberté de faire ce que vous voulez. Mais je défends aussi la liberté
dire c'est la
de
même
pouvoir
chose.
Être importuné ou être plus importuné par un torse féminin qu'un torse masculin parce qu'il n'a pas la même représentation. Quand vous voyez
c'est nouveau ça, d'être importuné par un torse féminin.
Comment ?
C'est nouveau ça, que tu sois importuné
non,
par un torse féminin.
Non, mais moi je ne suis pas importuné, mais je peux comprendre que d'aucuns le soient. Quand sur
et
Twitter ou Instagram...
Tu peux pas comprendre que d'aucune ait envie de faire comme elle veut.
Encore une fois,
je pense que je préférais qu'on ait l'empathie pour les femmes plutôt que comprendre ce qui sont importunés.
Mais c'est pas antinomique,
Catherine. Encore une fois, justement, c'est pour ça que je défends et je suis pour qu'on puisse avoir les seins nus et le topless à la piscine, qu'il y ait des créneaux, c'est une bonne chose. Et je comprends aussi que des gens soient importunés. Je suis totalement contre.
Mais importuné,
si on a ce débat-là, les gens qui sont insultés, là, il faut vraiment dire non.
Oui, bon, c'est les mêmes gens qui insultent parce que tu as une jupe courte, c'est ça le problème en fait. Est-ce qu'on doit céder à ça
non, mais
en
justement,
fait
on ne doit pas céder à ça. C'est pour ça qu'il faut défendre le topless. Mais je
laisser faire les femmes ce qu'elles veulent.
Mais je ne suis pas dans le discours de l'égalitarisme absolu, de l'extrémisme égalitaire, en disant qu'on a tous cette considération.
Si on a ce débat-là,
un homme n'est pas une femme n'est pas un homme.
Si on a ce débat-là, c'est bien parce qu'on n'est pas tous d'accord, tout le monde n'est pas d'accord. Dans la société sur ce qui est décent, ce qui ne l'est pas, et que donc
c'est pas le sujet
parce que dire uniquement liberté Moi, je suis désolé. Il faut aussi tenir compte de la façon dont ta liberté est ressentie par les autres. Et
ça s'appelle. Vous, c'est indécent, le topless, en fait.
Non, je dis pas que c'est indécent. Je dis que ça.
C'est
moi,
pour ça que je disais
forcément.
Dans mon propos, Laurent, les plus gênés s'en vont. Et moi, la seule chose que je veux dire, foutez la paix aux femmes. C'est-à-dire que donnez-leur les mêmes droits que les hommes et laissez-leur à préférer. Et puis elles feront en fonction de leurs envies. Mais il faut leur foutre la paix. Moi, j'entends de plus en plus de jugements sur la façon dont les femmes sont habillées. Je le répète, la profondeur des décolletés, la hauteur des jupes, voilées, pas voilées. Juste, foutons la paix aux femmes, donnons-leur les mêmes droits, et puis vous allez voir, tout va bien.
Un soutien-gorge et un voile, c'est pas tout à fait la même chose, quand même, Catherine.
Mais
ça n'a pas la même symbolique non plus.
Des pressions mises sur les femmes, on ne peut pas débattre du voile ici, mais voilà, c'est pas pour moi des pressions vestimentaires qui pèsent sur les femmes.
Parce que le voile n'est pas qu'un vêtement,
on est d'accord.
Je vous rappelle. Martin, vous avez des messages.
Oui, beaucoup de messages, ça vous fait beaucoup réagir sur Direct Studio. Alors, des messages.
Les hommes ou les femmes?
Parfois plus ou moins citables, on va dire.
Plus ou moins sérieux.
Il y a Julien, notamment, qui nous dit il faut autoriser les seins nus en piscine. Selon lui, c'est dramatique d'hypersexualiser les seins d'une femme dans les consciences, comme si cela faisait d'elle des débauchés. Je suis triste de voir, par exemple, ma copine se brider sur la plage pour la simple raison d'avoir des mauvais regards souvent féminins. D'ailleurs, voilà ce que nous dit Julien. Et puis,
elles sont jalouses.
Et puis voilà, sur un ton un peu plus humoristique, il y a Yannick qui nous dit que si les seins nus sont autorisés dans les piscines publiques, il risque d'y avoir une légère augmentation de la fréquentation masculine. Preuve que ça laisse pas insensible, en tout cas, cette question-là.
Alors, on est avec Caroline. Bonjour Caroline.
Bonjour.
Et Caroline, vous avez vécu en Allemagne, je crois, pendant assez longtemps. Est-ce que ça vous étonne, justement, cette autorisation de la pratique du sein nu dans les piscines allemandes?
Il faut bien voir qu'en Allemagne, la notion de pudeur n'est pas du tout la même qu'en France. Je vais vous donner une petite anecdote. La première fois que je suis allée à la piscine dans le centre-ville de Berlin, il y avait deux cabines pour se changer, donc j'y vais. Et puis quand je ressors de la piscine juste avant la fermeture, tout le monde est sorti en même temps que moi. Et là, j'ai réalisé qu'en fait, pour toute la piscine, il y avait seulement deux cabines pour se changer. Et tout le monde était à poil, en fait. Tout le monde était en train de se sécher, les hommes, les femmes.
Et il y avait une cabine homme et une cabine femme, quoi.
Il y avait juste deux cabines indifférenciées, que tout le monde se changeait. Tout le monde était tout nu, en fait, au milieu, c'est la salle de change. Et qu'en fait, il n'y a pas vraiment de cabine en Allemagne. Quand vous allez au sauna, par exemple, les gens sont tout nus.
Ça, c'est pour des questions d'hygiène, hein, Caroline, je crois, il me semble.
Absolument. C'est d'abord pour des questions d'hygiène. Mais à l'extérieur du sauna, quand vous prenez votre douche, vous êtes aussi tout nu. Quand vous sortez de la salle de sport, vous êtes aussi tout nu et les douches ne sont pas séparées. En fait, c'est la même douche pour tout le monde. C'est une grande salle de douche. Et en fait, ce qui se passe, c'est que personne ne se regarde. Tout le monde s'en fout.
C'est ça que j'allais vous demander.
Le vrai problème qu'on peut avoir, alors moi j'ai de la chance, je suis très myope, mais c'est qu'en fait vous n'avez pas forcément envie de voir vos amis tout nus. Vous n'avez pas envie de voir la vieille dame toute nue. Vous n'avez pas forcément envie de voir un vieux monsieur tout nu avec les plis du corps qui tombent sous ses genoux. Et en fait c'est le regard de chacun qui change. Et quand on se rend compte qu'on regarde pas les gens, en fait les gens ne regardent pas non plus. Et l'Allemagne n'a pas du tout la même façon d'appréhender ça. Il y a toute une culture en fait du corps qui s'appelle le corps libre. La FKK, la Freie Körperkultur, et en fait qui incite les gens à se sentir bien, à être libres d'eux-mêmes. Alors, ça fait qu'il y a beaucoup de plages naturistes, par exemple, dans le nord de l'Allemagne. Mm-hmm. Il y avait une grande fréquentation il y a encore quelques années, ça a baissé, mais là, les jeunes sont en train de retrouver aussi cette culture. Et en réalité, il faut bien voir que quand on est habitué à ça, en fait, ça nous enlève plein de problèmes.
Il n'y a pas d'hypersexualisation de la poitrine des femmes, par exemple, comme il peut y avoir
tout,
en France.
En fait. Non.
Il n'y a pas d'agression, de ce genre de choses, quoi.
Alors, c'est un petit peu un problème, c'est quand vous êtes une nana, vous ne vous faites pas draguer aussi. Hein.
C'est embêtant.
C'est peut-être pour ça qu'ils ont un problème de natalité aussi. Mais non, il n'y a pas du tout cette culture-là, il n'y a pas ce regard-là. Et nous, on est quand même un pays du Sud. On a une façon d'appréhender la femme, d'appréhender la sexualité qui n'est pas du tout la même. Eux, c'est des pays du Nord, c'est des pays comme la Finlande où il y a des saunas partout, c'est des pays de l'Est, la Hongrie, tous les pays de l'Est où vous allez dans les thermes, les gens sont tout nus. Et en fait, moi par exemple, après avoir vécu 10 ans en Allemagne, j'ai plus du tout honte de mon corps. Et donc quand je vais chez le médecin, je dois me déshabiller, je le fais devant le médecin qui est toujours un peu troublé. Je dis moi je m'en fiche en fait, de toute façon vous allez me voir toutes les 5 minutes. Donc en fait ça vous enlève des problèmes, ça vous enlève beaucoup de barrières et c'est beaucoup plus facile, c'est beaucoup plus simple à gérer. Et ça existait déjà en fait, le sein nu, par exemple à Munich, ils l'avaient autorisé au bord de la rivière. Et puis, il faut savoir qu'en Allemagne, il y a beaucoup de piscines, et là, celle dont vous parlez, enfin, dans le nord de l'Allemagne, là où ça a été autorisé, c'est des piscines qui sont en fait à l'extérieur. C'est des piscines qui sont dans des grands parcs.
D'accord.
Donc on n'est pas les uns sur les autres. C'est pas du tout la même façon d'appréhender d'appréhender la piscine. Et encore une fois, c'est vraiment une question de regard de chacun sur le corps de l'autre.
Eh ben merci beaucoup Caroline pour ce témoignage. C'était super intéressant. Voilà cette vision différente de l'Allemagne par rapport à la France. Vous voulez réagir, Martin?
Non, mais ça me fait penser au message de Stéphane qui dit bravo les Allemands, encore une leçon pour la France puritaine et morale. On voit la différence finalement de mentalité,
culture,
en fait,
oui,
de culture. C'est pas du puritanisme ou du conservatisme, c'est de la culture différente. Par exemple, moi je prends, j'ai en tête le Canada, c'est aussi un pays du Nord, finalement, le Canada, où effectivement là-bas,
on met une doudoune pour la piscine.
Alors, c'est vrai qu'on parle moins de piscine parce que bon, il fait froid l'hiver, donc ça m'étonnerait qu'ils puissent sortir. Mais ce qui est sûr, c'est que pareil, il y a moins de pudeur qu'on pourrait l'avoir en France, c'est une culture différente, et c'est vrai qu'effectivement, là, au Canada, c'est intéressant, les rapports entre les hommes et les femmes, c'est les femmes qui draguent, c'est les femmes qui sont accusées d'harcèlement, c'est les femmes qui vont vers les hommes, et les hommes, eux, ne font rien. C'est vrai qu'au Canada, quand on y va, on est toujours impressionné, c'est pour ça que les Français sont adorés ou détestés, c'est que nous, les Français, on y va, les Canadiens, hommes, eux, ne vont pas. C'est pas dans leur culture.
On est avec Adèle, qui nous appelle dans le Val d'Oise. Bonjour Adèle.
Bonjour Estelle, bonjour à l'équipe.
Et Adèle, vous voulez réagir à notre sujet sur la pratique du sein nu à la piscine. Vous êtes pour ou vous êtes contre, Adèle ?
Alors, comme je disais à Alexandre au standard, je ne suis pas catégorique. Ce n'est pas tout blanc ou ce n'est pas tout noir. Donc, si je devais choisir, je serais contre. Mais si on l'autorisait, je n'irais pas, j'arrêterais pas d'aller
à la piscine. Vous ne boycotteriez pas la piscine.
Voilà. Donc là, j'étais en train de penser, là, en attendant, pendant que j'étais en train d'attendre, un truc tout bête. Alors, si vous regardez un film sur Netflix ou sur Amazon, je ne sais pas si on peut les citer, désolé, mais il suffit qu'il y ait une seule scène avec une femme avec les seins nus ou un homme où ce qu'on voit ses fesses, pour qu'il y ait écrit moins de 18 ans, scène de nudité, etc., etc. Donc, c'est pas pour rien s'il y a ces,
c'est grave. C'est parce que c'est américain.
Non, parce que j'ai regardé un film.
Américains sont bien plus
purs. Les Américains, c'est terrifiant.
Les Américains, vous mettez un sein, une fesse, tout de suite, entre les moins de 16 ans ou 18 ans. Par contre, il y a des armes à feu, des meurtres, c'est pas grave.
Il précise également violence, langage grossier et compagnie. Bon, ça, c'était juste une petite parenthèse. Après, moi, je vais vous expliquer pourquoi c'est contre. Et ça reste que mon avis. Moi, je suis de ceux qui pensent que la poitrine d'une femme, ça reste, déjà, c'est très joli. Et ça reste, ça reste pour moi une convoitise. Je dis pas que c'est que ça, mais ça peut être une convoitise sexuelle. Donc à partir du moment où une femme elle est seins à l'air à la piscine, il faut pas qu'elle s'étonne que la moitié des hommes la regarderaient.
Adèle, c'est les mêmes gens qui disent mais... elle avait une jupe trop courte, tant pis pour elle.
Mais attendez, je suis pas en train de les accuser ou dire que tant pis pour elle. J'ai dit que il faut pas qu'elle s'étonne si la moitié des hommes les regardent.
Monsieur, attendez, je vous interroge. J'ai un exemple tout bel. Adèle, vous avez une belle voiture, vous avez une très belle voiture. Ne vous étonnez pas quand vous la vole. Ne vous étonnez pas quand vous la vole.
Non, mais en revanche, on a le droit de la regarder.
C'est pas ce qu'il a dit.
Mais en même temps, on la regarde la voiture. C'est un mauvais exemple, Catherine.
Voilà. Là, vous dites n'importe quoi. Si, par exemple.
Non, je dis pas n'importe quoi. Je trouve ça aberrant de dire ça.
Non, mais parce que moi, j'ai pas dit la moitié des hommes vont vouloir toucher, vont vous toucher. J'ai dit la moitié des hommes vont regarder.
Mais c'est ça le problème, Adèle.
Après, moi, ce que je trouve, c'est qu'un bon maillot de bain.
Et vous pensez que la femme, elle est pas au courant que les gens vont regarder?
Non, mais dans ces cas-là, on fait plus rien, Adèle.
Non, mais je vous dis pas que, qu'elles peuvent pas le faire. Je vous dis qu'il faut pas qu'elle s'étonne que les hommes vont regarder. Après, il y a regarder et avoir un comportement déplacé. Je pense que regarder à un petit coup d'œil comme ça, ça reste naturel.
Non,
attends,
non, mais pourquoi c'est vous pas rire, un petit coup d'œil, ça va.
Non, mais c'est un principe de réalité. Il a raison.
Le pouvoir, l'argent.
Un petit coup d'œil, c'est pas le topless qui provoque des guerres.
Un gros regard, bonjour
les gars. C'est la nature humaine, tout le monde le sait. Je veux pas vous apprendre ça.
Mais ça dépend des pays, vous avez bien entendu.
Donc, ne me dites pas que la poitrine d'une femme, ce n'est pas quelque chose qui évoque la sexualisation. Ne me dites pas ça.
Mais regardez, Adèle, on a eu une journaliste allemande il y a un instant, et elle disait bien qu'en Allemagne, c'est pas du tout comme ça. Tout le monde s'en fout. Les mecs sont à poil, les nanas sont à poil, il n'y a pas de problème. Donc, en fait, c'est vous qui hyper-sexualisez la poitrine des femmes. Mais nous, en tant que femmes, moi, je vois une femme topless, j'en ai rien à faire. Vous voyez ce que je veux dire?
Mais moi, j'ai déjà été plusieurs fois à la plage, dans les plages avec ma femme et même avec les enfants. on les voyait et ça nous fait ni chaud ni froid. Mais je dis simplement, et alors il faut pas s'étonner que, attendez, mais la poitrine d'une femme, ça reste quand même un argument quand même, on va pas se mentir. Pourquoi certaines femmes font la chirurgie esthétique pour avoir une plus grosse poitrine ou une plus belle poitrine?
Ouais, mais elles se refont, il y en a qui se font refaire le nez également et je crois pas que ce soit un attrait,
là, en l'occurrence, on parle de la poitrine, on parle pas du nez, le débat c'est sur la poitrine des femmes, pas sur le nez. Donc, et puis une chose que disait votre intervenant tout à l'heure, il avait tout à fait raison. Moi, je trouve que les hommes et les femmes au niveau des droits et au niveau de la, ils sont égaux, ça c'est sûr, mais morphologiquement parlant, ils ne sont pas égaux. Vous voyez bien que les hommes n'ont pas de sous-vêtements pour tenir leur poitrine.
Mais j'entends.
Ça n'existe pas.
Non mais j'entends, mais alors on va pas permettre aux femmes avec des petits seins de se mettre topless et à celles qui ont des gros seins d'être un soutien-gorge. Mais oui, après on peut pas, ça va être compliqué.
Elles font ce qu'elles veulent, mais c'est pas un problème d'égalité ou autre.
D'accord.
C'est personnellement, si j'interdirais pas, mais si j'autoriserais pas ma femme à le faire, c'est pas pour les raisons que vous évoquez, c'est plus pour le fait que...
Ah, parce que c'est vous qui autorisez votre femme à le faire ou pas? Rassurez-moi, elle fait ce qu'elle veut, votre femme.
J'ai dit si. Oui. J'ai pas dit que je le faisais, j'ai dit si. Ma femme d'elle-même ne le fait pas. C'est son choix. Mais si elle voulait le faire, je lui dirais tu vas à la plage toute seule ou tu iras à la piscine toute seule et puis tu te débrouilles. Puis voilà, si t'as 50 personnes qui te regardent ou 50 personnes qui te regardent pas, il faudra assumer, tout simplement. On va pas appelons un chat, la poitrine d'une femme, tout le monde sait que c'est quelque chose de beau et que les hommes regardent ça.
Mais pour vous, Adèle, mais encore une fois, c'est pas pareil dans tous les pays. Mais en tout cas, merci en tout cas de nous avoir appelé pour témoigner au 32-16. Martin.
C'est peut-être une question d'habitude aussi, hein, tout simplement. On l'a dit, Caroline nous l'a dit, en Allemagne, ça fait longtemps que finalement, il y a que les femmes sont topless dans les piscines. Et donc forcément, peut-être qu'au début c'était comme ça, peut-être qu'au début les garçons se regardaient et que c'est devenu banal en fait, tout simplement. Comme on n'a pas l'habitude de voir des poitrines dans la société.
Ce que j'aimerais savoir, si c'est en Allemagne, ils ont arrêté de vendre de la lingerie avec des soutiens-gorge pigeonnants pour mettre en valeur la poitrine des femmes, par exemple.
Et
c'est intéressant de savoir s'il y a une corrélation.
Eh bien, nous allons nous renseigner. Laurent Dandrieux, Pierre doit avoir une étude là-dessus. Forcément, nous sommes avec Gala Avanzi, autrice du livre Nos bras, ce que ma poitrine dit de moi, chez Flammarion. Bonjour Gala.
Bonjour Estelle.
Merci d'être avec nous sur RMC, RMC Story. Et c'est vrai que ce débat enflamme le plateau et nos auditeurs et auditrices sont très nombreux à réagir. C'est pour ça qu'on est un petit peu en retard. Ce serait une bonne chose pour vous, Gala, d'autoriser le topless à la piscine en France. Ça ferait avancer l'égalité des droits hommes-femmes?
Oui, je pense, parce que le problème, c'est le regard qu'on pose sur la poitrine des femmes et qu'on l'hypersexualise. Et ce serait déjà effectivement un pas en avant. Alors après, il n'y a pas que ça à faire, évidemment.
Oui,
ça,
voilà.
Mais oui, je pense que ça aiderait parce que ça changerait. On commencerait un peu à changer le regard qu'on pose sur le corps des femmes, ouais.
Mais ce regard justement il est gênant parce que en même temps, on peut aussi être contente d'avoir des regards sur soi parce qu'on a une belle poitrine.
Bien sûr, mais en fait, je pense que le sujet, c'est de se dire que c'est aux femmes de choisir si elles décident de sexualiser ou non leur poitrine. On n'a pas à leur imposer, en fait. Donc, si y a un jour où on a envie, effectivement, de sexualiser sa poitrine, de mettre un beau soutien-gorge avec un beau décolleté pour... on en a tout à fait le droit. Mais voilà, le problème, c'est que cette hypersexualisation, elle vient des autres, de la société, et c'est en ça que c'est problématique, à mon avis.
Ouais, pour vous, le problème, c'est le regard de l'homme, en fait.
Pas que le regard de l'homme, mais le regard en général, le regard que la société pose sur les femmes. Mais il peut venir autant des femmes que des hommes. Mais après, les femmes ont plus, d'après les sondages, les femmes ont plus peur du regard des hommes que celui des femmes.
Ouais. Et les agressions viennent plus souvent effectivement des hommes que des femmes. Cédric Amato également est avec nous, président de l'association Nudité Sociale France. Bonjour Cédric.
Bonjour.
Bon, là, on parle que du topless. Vous seriez pas pour la nudité totale dans la piscine, quand même?
Non, pas du tout. Le sujet n'est pas là, effectivement.
Cédric, ce serait une bonne chose pour vous?
Écoutez, en fait, j'ai entendu un peu tout le monde s'exprimer sur ce sujet. Moi, je vais être encore plus simple. Aujourd'hui, si on en a ce débat, c'est que dans la société, c'est pas normal et qu'on en est à amener ça sur la table. La nudité et même le topless, aujourd'hui, la société finalement décide du rythme que nous devons voir ce qui est bien, ce qui est mal, ce qui est décent, ce qui est indécent. Et aujourd'hui, c'est dramatique pour un pays comme la France. Et donc, pour faire très simple, hein, moi, au travers de beaucoup de choses, beaucoup d'actions, on essaye de banaliser le corps et pas que la nudité totale. Hein, c'est pour ça que je ne parlais pas de naturisme, mais de nudité sociale. Mmh. C'est qu'en fin de compte, une poitrine, des seins nus, un homme nu, ou alors même, qu'importe, on est en train de parler de ça. Aujourd'hui, oui, la femme doit décider de ce qu'elle souhaite faire, de comment elle s'expose. Et quand on connaît aujourd'hui les réglementations, les règlements intérieurs, les décrets, les arrêtés municipaux, quand vous voyez qu'aujourd'hui une commune comme Paris, la nudité dans les douches est interdite. On parle même pas de s'exposer, de se baigner nu. On parle de la séquence douche. Aujourd'hui, en fait, on a un sérieux problème. C'est qu'aujourd'hui, ce qui est simple, ce qui devrait être normal, ne l'est plus.
Mais c'est aussi pour les hommes. Il y a des municipalités qui ont pris des arrêts anti-torse nu aussi pour hommes dans les rues. Donc finalement, il n'y a pas que les femmes qui sont touchées. Hein.
Mais tout le monde, exactement. Et je vais vous donner un exemple parce que encore une fois, c'était très intéressant d'avoir entendu un peu tout le monde.
Ouais.
Le pays d'Europe où il y a le moins de viols, permettez-moi de vous le préciser. Hein, oui. Il y a des sujets très officiels là-dessus. C'est la Finlande. La Finlande est le pays d'Europe où il y a le plus de nudité. Et en fait, c'est un paradoxe parce que l'hypersexualité. Et je voudrais constater que quand plus il y a de nudité, plus on normalise, plus on habitue et moins on sexualise. Et aujourd'hui, à force de priver ce qui est normal, eh bien, ça devient anormal, ça se sexualise, ça rentre dans une forme de érotisme, ce qui ne devrait en aucun cas l'être.
C'est ça.
Et aujourd'hui, voilà, il est là le problème, c'est que la société, finalement, pense faire les bons choix en interdisant pour les pudeurs, mais nous créons la pudeur.
Non mais c'est intéressant ce que vous dites, et d'ailleurs on le voit dans beaucoup de clubs de sport, les gamins.
Exactement.
Nous il y a 30 ans, il y a 40 ans, je veux dire, on était tous à poil dans les douches, il y avait aucun problème. Et aujourd'hui, les gamins, même entre eux, genre garçons entre eux, filles entre elles, elles ne se douchent plus, elles se douchent en maillot de bain, elles se douchent en slip, en sous-vêtements, il y a plus de douche tout nu, il y a une espèce de
pudeur qui est assez dingue.
Quand
il y a plein de, il a raison, hein, s'il y a plein de femmes topless, on finit par plus les regarder parce que ça, voilà. Alors que quand il y a deux ou trois, on focalise dessus. Pardon.
Moi, quand je faisais du foot, dans les douches, personne n'était nu, on était tous en caleçon, en sous-vêtements pour se doucher.
Ouais, bah, il y a 40 ans,
c'est de plus en plus comme ça dans les vestiaires de foot et de les sports globalement.
C'est un gros retour de la pudeur. Alors, on remercie bien sûr tous ceux qui nous ont appelés sur ce sujet et puis ce sondage intéressant, tiens, sur le compte Twitter d'Estelle Midi. Pour ou contre le topless dans les piscines en France ?
59% pour.
Ah, majorité, mais je pensais que ce serait plus, vous voyez, donc c'est pas encore la très 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 large majorité, il y a encore du chemin à faire. Dans un instant, les immanquables, les infos qu'il ne fallait pas rater aujourd'hui, avec notamment le palmarès des villes dans lesquelles il est le plus facile de trouver du travail. Et puis justement, en parlant de travail, il y a 6 Français sur 10 qui regrettent déjà d'avoir changé de job durant la pandémie de Covid. À tout de suite sur RMC.
RMC, midi 15h, Estelle Midi,
Estelle Denis.
C'est la dernière partie d'Estelle Midi. On est ensemble jusqu'à 15h. Et voici tout de suite les infos qu'il ne fallait pas rater aujourd'hui. Ce sont les immanquables.
RMC, Estelle Midi,
les immanquables.
Et on va démarrer tout de suite avec le retrait du jour, Martin.
La RATP retire temporairement 149 bus électriques de la circulation. Une mesure de précaution prise par la Régie des Transports Parisiens après un deuxième incendie en un mois dans un bus électrique de la capitale. Tous ces bus et les 149 retirés appartiennent tous à la même série. La RATP utilise des bus électriques depuis 2016, une flotte de 500 véhicules électriques qui n'ont jamais provoqué d'incident majeur. Jusque-là, une expertise complète a été demandée au constructeur. Aujourd'hui, on a aussi appris qu'un autre bus électrique sans passage et utilisé pour des essais avait pris feu ce matin à Carcassonne. C'est la batterie en lithium qui a pris feu.
Coup dur pour l'électrique, hein, quand même, Pierre Bondeau.
Là, c'est le moins qu'on puisse dire. Et pour Bolloré aussi. Oui, c'est les bus Bolloré.
Voilà. Je pense qu'on essaie de l'appeler au téléphone.
Ça Bolloré à avoir
la
décence de répondre parce que c'est quand même un sujet important, ces bus. Mais c'est vrai que très mauvaise image et publicité pour l'électrique et aussi indirectement pour la mandature d'Anne Hidalgo parce qu'on va encore lui dire que c'est de sa faute.
C'est aussi arrivé à Carcassonne. Elle n'y est pour rien.
Elle n'y est pour rien, mais je suis sûr que les gens opposés à la politique d'Anne Hidalgo vont avoir un malin plaisir à lui rappeler qu'elle a choisi ses bus et que ses bus maintenant flambent. Donc, coup dur pour l'électrique, coup dur pour la maire de Paris, Anne Hidalgo. Si demain on substitue ses bus par le retour au.
Mais ça, on va revenir au bus à essence
ouais,
mais
voilà,
non.
C'est...
Bah, qu'est-ce qu'on va faire?
Il y a une flotte de 500 bus, il y a peut-être certainement un problème.
Il y a certainement un problème.
Les bus électriques dans Paris, moi, je trouve que c'est une bénédiction. C'est silencieux, ça pollue pas, c'est merveilleux, donc ça va continuer
et ça brûle. Sauf quand ça brûle.
C'est arrivé deux fois. Je dis pas qu'il.
Deux fois sur 500, excusez-moi, c'est déjà pas mal.
Il faut que tu trouves le problème. Enfin, quand même.
J'ai déjà vu des bus qui brûlent dans Paris avec de l'essence. Jamais.
Je dis quand même que néanmoins, les bus électriques dans Paris, c'est quand même pas bruyant et pas polluant. Seul, ça se... Vous les gardez. Voilà.
Qu'est-ce qu'on fait, Laurent Andrieux, avec ces bus qui brûlent?
En tout cas, oui, il faut enquêter sérieusement pour savoir pourquoi ça s'est produit. Parce que là, 3, ça fait quand même beaucoup.
Après, puis on se dit que si le bus brûle, la voiture peut brûler aussi. Vous voyez ce que je veux dire?
C'est vrai qu'on avait aussi autrefois dans Paris les Autolib, qui étaient les voitures Bolloré.
Oui.
Peut-être que les bus Bolloré, les voitures Bolloré, tout flambe. En fait,
en tout cas, Hidalgo n'a pas de chance avec Bolloré. Ça, c'est
non.
Non, c'est pas génial. Le regret du jour. Le
regret des Français qui ont changé de travail pendant la crise sanitaire et plus ou moins à cause de la crise sanitaire. 62% d'entre eux regrettent cette reconversion aujourd'hui. C'est largement plus que chez nos voisins européens. Les Français regrettent surtout leur ancienne mission, leur ancien salaire, les congés qu'ils avaient aussi dans leur ancien travail. On regrette en revanche moins que nos voisins, nos anciens collègues de travail. En France, on est peut-être beaucoup changé de travail sans trop réfléchir. Près de la moitié de ceux qui se sont reconvertis depuis 2 ans ont démissionné une deuxième fois dans l'intervalle.
Mais c'est quand même assez dingue, Catherine Rambert, parce qu'on nous a vendu effectivement le changement de vie, le changement de travail, le télétravail, la province formidable pendant tout le confinement. Mais en fait, on se rend compte quand même qu'on en revient et assez rapidement. Hein.
Mais on ne nous l'a pas vendu. C'est-à-dire que les Français se sont fait un film en disant comme ceux qui sont confinés ont découvert en effet qu'on respirait mieux à la campagne, découvrir un autre style de vie. Mais découvrir un style de vie pendant quelques mois. Et y adhérer, c'est autre chose. Et effectivement, moi, ça m'étonne pas du tout ce qu'on apprend là. Les gens qui ont quitté, vivent la vie au champ, une vie plus naturelle, machin et tout, on se rend compte que c'est pas du tout la même vie que vit dans les villes, que c'est dur de s'acclimater, qu'en effet, les salaires ne sont pas les mêmes, les avantages sont pas les mêmes, et c'est pas forcément parce qu'on vit en province qu'on a une vie plus facile. Ça me surprend pas tellement.
On a plus de temps de transport.
Ouais, mais non, mais là, c'est changement de métier. C'est
changement de métier.
Oui, c'est pas forcément déménager en province. Oui. Même si, effectivement.
C'est changement de métier.
Souvent, c'est fait corrélé.
Oui, non, mais il y a aussi des gens qui, effectivement, sont pris de passion pour la campagne pendant le confinement.
Ils ont tout quitté, changé de métier. Ils ont dit, je vais faire des confinements.
Mais là,
je vais faire des confinements. Je vais faire des confinements.
Oui, c'est plus sur le monde. Finalement, le monde d'après qu'on mettait en avant pendant le confinement, finalement, le monde d'après, c'est le monde d'avant-hier. C'est juste un retour comme avant. On s'est imaginé boulanger. Pâtissier pendant 3 mois parce qu'on n'avait que ça à faire durant le confinement. Sauf que boulanger-pâtissier, c'est pas dans sa cuisine à 3h de l'après-midi devant Top Chef. Pâtissier-boulanger, c'est se lever à 4h du mat, être très mal payé, avoir un rythme de vie très difficile, très pénible. Donc si on passe d'ingénieur commercial cadre supérieur à boulanger-pâtissier ou un métier manuel, faut pas s'attendre à ce que ce soit la belle vie. La belle vie, c'était peut-être pendant le confinement parce qu'on était protégé par le chômage partiel. Maintenant, voilà, le monde de demain, c'est le monde de maintenant.
Après, ce qui serait intéressant de savoir s'il y a aussi beaucoup de gens qui ont divorcé, qui sont séparés pendant le Covid, est-ce qu'ils regrettent l'ancien mari ou l'ancienne femme?
Après, dans ces gens,
je crois, Catherine.
Dans ces gens qui ont changé de métier, il y a probablement une bonne part qui n'avait pas le choix. Mais ce qui est certain, c'est que quand on fait un changement radical, il n'est jamais bon de le faire à chaud. C'est-à-dire que quand on change vraiment de branche ou quand on change vraiment de style de vie, il vaut mieux s'y préparer mentalement et réfléchir un peu avant, parce que sinon, effectivement, s'expose à des désillusions.
Mais après, ça peut peut-être être une aubaine pour la restauration, parce qu'on sait qu'il y a 150 000 postes à pourvoir. On sait que c'est beaucoup ces métiers-là dans la restauration, notamment que les jeunes se sont dit « j'en peux plus, je travaille le week-end, j'ai des pauses, etc. Je vais faire autre chose. » Et finalement, ils vont peut-être y revenir. C'est peut-être presque une aubaine pour la restauration.
Oui, maintenant, il faut voir quelles seront les conséquences de ces chiffres. Hein. Si aujourd'hui, ils regrettent, mais ils s'obstinent, ou si vraiment, ils vont s'arrêter assez rapidement et revenir à ce qu'ils faisaient avant. Encore une fois, il faut voir sur la durée si ça va continuer à perdurer, ou il y a simplement un coup de déprime, parce que rappelez-vous ce qu'on a dit au début de l'émission, hein, le contexte conjoncturel fait que le marasme économique et social est très élevé, donc peut-être qu'on regrette parce qu'effectivement on subit l'inflation, on subit le pouvoir d'achat, et donc on a envie de revenir comme avant, donc est-ce que c'est une passade, ou est-ce que ça va durer, et on va avoir un retour vers ce qu'on faisait avant.
Et est-ce que les gens vont revenir sur Paris, puisque Paris perd à peu près 12 000 habitants
chaque
année?
Alors, on perd des habitants, mais l'immobilier ne baisse pas. Donc, il y a un paradoxe.
Non,
ici.
Il commence
à baisser un tout petit peu.
Un tout petit peu,
ouais. Enfin, un chouïa, un tantinet. Le palmarès du jour.
Dans quelle ville de France est-il le plus facile, entre guillemets, de trouver du travail? Le Figaro attendait de répondre à cette question. Plus de 100 villes de France ont été comparées. Quel est le nombre de demandeurs d'emploi dans ces villes? Quel est le nombre de postes proposés par Pôle emploi? Résultat de ce classement, Rennes arrive en tête devant Annecy et Aix-en-Provence.
Ah bah, 3 villes sympas. Ah oui, non, ça c'est bien.
Les auteurs de l'étude ont aussi recensé les villes où on recherchait le plus de CDI. Et là, c'est Lyon qui est sacré champion des CDI avec 77% des offres de Pôle emploi qui sont des CDI devant Courbevoie et Boulogne-Billancourt en région parisienne. Dans ce classement, 8 des 10 premières places sont attribuées à des villes de région parisienne.
Oui, ça se trouve, il y aura un retour de la province vers la région parisienne. Oui, alors,
vers Paris, tant qu'Anne Hidalgo est maire, je ne crois pas.
Je
pense qu'effectivement il y a un gros exil de Parisiens actuellement parce que la vie à Paris devient de plus en plus compliquée et chère. Et après, est-ce que cet engouement pour la province va s'arrêter du jour au lendemain? Moi, je crois pas parce que malgré tout, on a pris conscience de l'importance de respirer, de vivre un peu dehors aussi. Voilà, je pense que ça va pas disparaître comme par enchantement.
Moi, maintenant, je m'imagine plein de trucs avec cette étude. J'ai envie de prendre un tableur Excel et voir s'il y a une corrélation entre, parce qu'on a cité Rennes, Aix et Annecy. Mmh. C'est des villes effectivement où il fait bon vivre. Et on a aussi le palmarès des villes où il fait le mieux vivre. Angers. Je suis sûr qu'il y a une corrélation significative.
Angers, Orléans, je crois.
Et... Oui, mais aussi Rennes, Annecy. Et
après, il y a le contexte.
Je pense qu'il y a une corrélation entre villes où il fait bon vivre.
Annecy, c'est cher quand même. Il faut avoir un bon pouvoir d'achat.
Aix-en-Provence aussi, très cher.
Avec un bon salaire pour pouvoir y vivre.
Ça peut être assez paradoxal du coup, puisque comme il fait bon vivre, on pourrait dire qu'il y a beaucoup de monde et donc pas forcément d'emploi disponible, pas forcément facile de trouver des travaux.
Le bien-être au travail permet aussi la productivité, la croissance et l'engouement économique.
La baisse du jour.
Les aides à la rénovation énergétique de nos logements va diminuer à partir de dimanche. C'est l'un des nombreux changements du 1er mai. C'est ce qu'on appelle les primes CEE pour certificat d'économie d'énergie. Concrètement, si vous avez signé votre devis avant le 1er janvier, vous avez jusqu'à demain pour finir les travaux de rénovation et profiter de primes pleines. Si les travaux ne sont pas finis ou si le devis a été signé après le 1er janvier, ces primes vont baisser de 20 à 30% pour différents travaux comme l'isolation des murs ou des toitures terrasses, par exemple.
Et pourquoi ça baisse, on sait?
Parce qu'il faut remplir les caisses.
Ouais, c'était une décision qui avait été prise.
Si on a passé un accord avec un artisan avant cette date fatidique, donc le contrat a été signé, mais les travaux sont encore en cours.
Tant pis.
Alors moi, de ce que j'ai lu ce matin, c'est si le contrat a été signé après le 1er janvier, vous ne pourrez pas bénéficier de ces primes à plein.
Mais ça, c'est quand même incroyable.
Oui, c'est quand même incroyable.
C'est-à-dire que tu signes, tu te dis, tiens, je vais avoir 30%, je vais changer mon toit.
Si vous avez signé un devis avec quelqu'un.
Si tu signes un devis, j'ai n'importe quoi, mais tu refais ton toit, c'est quand même très cher.
Et ça te prend du temps.
Admettons, tu signes un devis à j'ai n'importe quoi, j'en sais rien, à 10 000 euros, et tout d'un coup, et on te dit, vous avez 30%, tu dis, c'est super, ça fait 7 000. Et tout d'un coup, tu dis, oh non, finalement, c'est 10, c'est quand même pas du tout pareil.
Il aurait fallu le faire attendre à date du contrat. Il aurait fallu le faire à date du contrat ou à date du devis, dire que si quand le contrat est signé avec un entrepreneur, vous aurez droit à ces aides, qui avant ou après le 1er mai. Je trouve ça absurde.
Mais ce qui est absurde aussi, c'est quand même d'enlever cette aide, MaPrimeRénov, c'était aussi pour les passoires énergétiques. On l'a beaucoup dit, il y a beaucoup de Français qui vivent dans qui dépensent une fortune en électricité, etc. et en énergie parce qu'ils vivent dans les passoires thermiques. Et là, on leur dit, non, vous aurez plus d'aide. C'est quand même dingue.
À l'heure où on parle d'écologie, c'est absurde que cette prime s'arrête. D'abord, tous les gens n'ont pas eu le temps de faire leurs travaux dans le temps imparti. Et puis, il faut que ça continue, il faut continuer à aider les gens qui veulent isoler leur maison, leur logement.
C'est une promesse même du candidat Emmanuel Macron, je crois que c'était 800 000 logements rénovés, 800 000 passoires thermiques rénovées. C'est pas en supprimant ou en réduisant, en tout cas, parce qu'elle n'est pas supprimée, elle est réduite, cette prime rénov' qu'on va faciliter cet objectif de 800 000.
C'est bien, l'écologie, ça marche bien. Là,
ça a bien tourné entre les deux tours. Ça marche bien.
Puis là,
c'est fini.
C'est
rigole,
là, on a refermé la porte. Voilà. La fermeture du jour.
Une route fermée à la circulation, interdite aux voitures depuis maintenant 3 mois dans les Côtes d'Armor, près de Lamballe. Je ne sais pas si vous visualisez où c'est, Estelle. C'est pour préserver les grenouilles qu'elle a été fermée. Cette route, ce tronçon de 800 mètres, est au milieu en fait, d'un espace naturel protégé. Il abrite 11 espèces protégées d'amphibiens. Mais quand ils se reproduisent, ces amphibiens, des centaines d'animaux vont sur la route, meurent sur cette route, qui a donc été définitivement fermée. Désormais, ça va coûter 423 000 euros à la commune. C'est moins cher quand même que de construire un crapauduc. C'est un genre de souterrain pour que les crapauds puissent passer sous la route. Des déviations sont mises en place pour les automobilistes qui doivent faire jusqu'à 20 km de plus.
Mais on ne peut pas construire un voiturduc qui...
on aime beaucoup les animaux et notamment les grenouilles, mais est-ce que ça va trop loin, Laurent Dandry?
Non, moi je pense que c'est important de préserver les espèces de grenouilles.
Bah, c'est la biodiversité, c'est la défense de la biodiversité.
423 000 euros.
Non, mais là, en l'occurrence, parce que ça a mal été réfléchi, mais aujourd'hui, en matière de génie civil et construction des aménagements urbains, il y a aussi une demande de respecter la biodiversité et de mettre en place ces grenouilles-ducs.
Les crapauds-ducs,
pour effectivement permettre à ce que les animaux puissent
se retrouver. Et donc, ça vous gêne. Non, mais je vois que vous êtes très attaché aux batraciens, et tant mieux pour vous. Mais ça vous gêne pas que des gens, que ça coûte quand même 423 000 euros à une toute petite commune et que des gens sont obligés de faire 20 km pour contourner le crapaudrome.
Ça a été mal réfléchi parce qu'aujourd'hui, il y a une obligation de crapauduc.
Il y a une prise de conscience, c'est plutôt intéressant. Ils n'avaient pas fait qu'on...
On ne peut pas pleurnicher en disant c'est atroce, la moitié des espèces animales disparaissent.
Après,
et en même temps se plaindre quand on essaie d'en sauver.
Là, on fait quelque chose pour la préserver. Bon, ben effectivement, ça coûte un peu d'argent.
Mais s'il faut faire 20 km de plus, parce qu'il y a trop de crapauds.
C'est pas grave. La Bretagne, c'est beau. Les routes de Bretagne sont belles. C'est beau. Vous nous dites tout le temps. Et les gens vont être ravis de faire un petit tour en Bretagne. C'est magnifique, paraît-il. Je vais y aller, moi, dans ce coin. Je connais pas.
Vous avez raison. Ne prenez pas cette route, elle est fermée.
Je peux faire un détour et je vais prendre des photos des crapauds et des petites grenouilles. Voilà.
Si les gens veulent changer de métier, ils se font une entreprise de crapauduc, on fera 20 km en plus pour visiter la Bretagne.
Pour aller voir des grenouilles?
Non, pour visiter la Bretagne.
Non, mais c'est vrai que parfois il y a des... c'est qu'en Bretagne, moi j'ai déjà vécu ça, vous vous retrouvez avec des nuées de grenouilles, vous savez pas pourquoi. Bon bah voilà. On ferme pas nos maisons parce qu'il y a trois grenouilles à l'intérieur.
C'est pas très bien d'avoir le matin au petit-déj, avoir des grenouilles chez soi.
C'est pas ce qui est le plus agréable, je suis d'accord.
Non, mais vous auriez pu mettre des filets ou quelque chose. 423 000 euros, ça me sidère.
Mais ça coûte combien la destruction de la biodiversité?
Des grenouilles, pas de toutes en plus.
On ne sait pas quelles pourraient être
les conséquences. C'est pas une espèce menacée que
Quelles seraient les conséquences
si on les protège, c'est qu'elles sont menacées.
C'est 11 espèces protégées qui étaient dans cette.
Oui, protégées, mais peut-être pas menacées.
Si on les protège, c'est qu'elles sont menacées.
Écoutez, j'en sais rien. Je ne suis pas spécialiste des grenouilles, mais écoutez, moi j'étais assez sidérée, mais puisque vous trouvez ça très bien, je ne dis plus rien, il n'y a aucun problème. Bon, nous allons. Formidable. Nous allons terminer avec la promesse du jour.
Fini l'attente interminable pour faire refaire son passeport ou sa carte d'identité. La présidente de l'Agence nationale des titres sécurisés, c'est cette agence qui gère la délivrance de ces pièces d'identité, promet un retour à la normale d'ici l'été. Actuellement, il faut en moyenne 2 mois pour demander un nouveau passeport ou une nouvelle carte d'identité contre 15 jours, 3 semaines habituellement. Les services subissent actuellement un effet de rattrapage post-Covid. En fait, c'est ce qu'explique l'agence. Près d'1,5 million de titres n'avaient pas été demandés pendant le Covid. Pour compenser ces demandes supplémentaires, des renforts ont été déployés, nous précisons.
C'est fou qu'on n'y ait pas pensé avant, pour vous, Laurent Andrieux, quand même.
Après, je pense que c'est aussi une question de moyens. C'est-à-dire que,
ils ont les moyens parce qu'ils en mettent des supplémentaires.
Oui, sauf que c'est forcément des choix, c'est des moyens qu'on prend ailleurs pour les mettre là. Mais bon, je pense que c'est pas une question qu'on n'y a pas pensé avant, c'est qu'il y a des hiérarchies. Mais bon, après, quand on a vu qu'il y avait un goulot d'étranglement.
Pour le passeport, effectivement, le passeport c'est important pour l'étranger, mais naïvement je pensais que la carte d'identité, une fois qu'on avait sa photo d'adulte, elle pouvait dépasser la date de péremption, on pouvait la conserver.
Oui, mais là il y a aussi beaucoup d'étudiants qui vont passer le bac et le brevet dans quelques semaines et qui se sont rendus compte qu'ils n'avaient pas de papier d'identité. Mais heureusement, cette dame ce matin là, la présidente de l'Agence nationale des titres sécurisés, a dit qu'effectivement pour tous les concours, même une carte périmée de 5 ans pouvait marcher. Ça doit rassurer.
Par contre, pour voyager, je pense que ça marche pas.
Oui. Non, si vous voyagez dans un pays hors UE.
Non, mais même en UE, je pense qu'une carte d'identité périmée, ça marche pas.
Eh ben, je crois que ça dépend des pays. Et si on me dit si,
je tenterai pas le coup, moi, en tout cas.
C'est juste pour la carte d'identité, elle est valable 5 ans après cette expiration, si vous étiez adulte au moment où elle a été délivrée.
D'accord. Évidemment, parce que si vous avez fait une carte d'identité à 1 an, c'est sûr que quand vous avez 18 ans, évidemment, la ressemblance est moins frappante, évidemment. Bon, dans un instant, un petit peu de légèreté dans cette émission, nous allons jouer, nous jouerons au quiz. À tout de suite sur RMC.
RMC, midi 15h, Estelle Midi,
Estelle Denis.
C'est l'heure de jouer dans Estelle Midi, c'est l'heure du quiz, c'est parti.
RMC, Estelle Midi,
le quiz d'Estelle.
Et on joue pour un très beau séjour, Martin.
Pour une semaine, pour 4 personnes, dans un centre VVF. Il y a plus de 100 destinations. Vous en choisissez une pour partir donc une semaine en pension complète.
Et cette semaine de vacances, elle sera soit pour Isabelle, soit pour Julien. Bonjour à tous les deux.
Bonjour Estelle.
Très belle semaine de vacances. Je vais commencer avec vous, Isabelle. Vous appelez d'où ?
J'appelle de Villeneuve-Lausanne, en banlieue toulousaine.
Oh, vous n'avez pas besoin de vacances, Toulouse, c'est super joli, Isabelle.
Oui, bien sûr.
Vous êtes en vacances, justement, ou pas du tout ?
Ah non, pas du tout, je suis en télétravail.
Ah oui, d'accord. Bon, écoutez, très bien. Vous faites quoi dans la vie, Isabelle ?
Je suis comptable.
Comptable. Eh bien, écoutez, vous avez peut-être besoin de vacances, effectivement, tous ces chiffres tout le temps. Voilà. Ça doit user. Isabelle, qui choisissez-vous pour vous aider ?
Catherine Rambert.
Bien, je suis à Toulouse, bravo. Les Toulousaines vont faire un tandem de dingue.
Eh ben écoutez, nous verrons ça. Nous verrons ça, Catherine. Mais Catherine est très en forme, Isabelle, sachez-le. Face à vous, il y a Julien. Bonjour Julien.
Bonjour à tous.
Et vous appelez d'où, vous, Julien?
Alors, j'appelle à côté d'Arouen, en Seine-Maritime.
Bah, c'est très bien aussi, vous n'avez pas besoin de vacances non plus.
Non, mais c'est bon en ce moment.
Ouais, je vais garder ce séjour pour moi, je pense. Julien, vous faites quoi dans la vie?
Je suis contrôleur prestation retraite.
Ah oui, oui, c'est comme comptable. Voilà,
c'est à peu près pareil.
C'est pas gay tous les jours, quoi. Hein? Donc vous avez besoin de vacances aussi, comme Isabelle. Je ne sais pas comment je vais faire pour vous départager.
Aïe.
Julien, qui choisissez-vous pour vous aider?
Je choisis Pierre Rondeau pour sauver nos grenouilles.
Bah écoutez, très bien. On va voir s'il sauve vos vacances, en tout cas. Isabelle, Julien, bonne chance à tous les deux. Cette première question, elle est juste pour vous. Attention. Quel acteur sera à l'affiche du spectacle organisé en mai pour le jubilé de la reine Elisabeth II? C'est un acteur dont on parle beaucoup en ce moment.
Oui,
non, alors on en parle pour de bonnes raisons, parce que va y avoir en fait un de ces films mythiques. Eh ben, c'est le retour de ce film mythique.
Ah oui, je sais.
Il est très beau. Il a joué dans Cocktail.
Il n'est pas très grand.
Dans Rain Man. Dans Jerry Maguire. Il a un sourire avec des dents blanches. Il est très blanc.
George Clooney.
Non.
Plus petit. J'étais marié à Nicole Kidman.
Il a fait Mission Impossible.
Oui, je vois.
Ok, il a fait Top Gun.
Il a dit, Julien.
Julien l'a dit. Tom Cruise.
Voilà, bravo,
C'était long,
Julien, mais bravo à vous. Et oui, Tom Cruise qui va participer au spectacle pour le jubilé de la reine Elisabeth II. Tout le monde peut jouer désormais. Question cinéma. La suite de quel célèbre film de science-fiction vient de dévoiler sa date de sortie?
Avatar.
Bonne réponse de Pierre Rondeau. Bravo, et oui. La suite d'Avatar, 14 décembre prochain. Question de culture générale. Selon plusieurs estimations, quel groupe de rock a vendu le plus d'albums dans l'histoire?
Queen?
Non. Non. Plus vieux.
Les Beatles.
Oui, les Beatles. Ah bah oui. Bonne réponse.
Quand même.
De Catherine et d'Isabelle, qui l'avaient aussi.
Oui, c'est pas du rock, les Beatles.
Près de 600 millions d'albums vendus. Sur le podium, on retrouve également Elvis Presley et Michael Jackson. La première femme du classement, c'est... Madonna. Ah oui, qui arrive en cinquième position. 2-1 pour Julien. Qui a dit presque tout le monde peut dépenser 100 000 dollars pour s'offrir un voyage sur Mars?
Jeff Bezos.
Elon Musk. Ah, bonne réponse de Pierre Rondeau. Il parle beaucoup en ce moment, Pierre. Elon Musk qui vient de racheter Twitter. La question charade, elle est importante pour vous, Isabelle. Elle rapporte 2 points. Il va falloir la gagner, celle-là. Catherine et Pierre, vous attendez que je dise mon tout pour répondre. Julien et Isabelle, vous répondez quand vous voulez. Mon premier est le prénom du plus célèbre sorcier du monde. Mon deuxième est un pronom personnel et un magazine féminin. Les personnes généreuses font souvent mon troisième. On a besoin de mon quatrième pour jouer au tennis. Et mon tout est une actrice et chanteuse.
Ariel Dombal,
bonne réponse. D'Isabelle, bah oui, Harry, donc le sorcier, elle, le magazine féminin, les personnes généreuses, elles le font, c'est un don. On a besoin de mon quatrième pour jouer au tennis, une balle. Ariel Dombal, 3 partout entre vous deux, je vais devoir vous départager avec une question. Allez, question musique. Quel artiste français, un rappeur, vient d'obtenir son 100e disque d'or?
Orelsan?
Booba?
Non.
Booba?
Non, c'est plus, c'est une contraction.
MC Solar?
Non.
MC Jean-Guy?
Non, c'est la contraction d'un prénom. Non, il fait des trucs avec ses doigts.
Joule?
Oui, bonne... Pardon,
lundi, c'était pas mal.
Je ne connais que ça de ce garçon, mais les doigts de Jules, Julien, vous permettent de partir en vacances.
Ouais, super, merci.
Bravo, Julien.
Sur RMC, avec VVF. 100 destinations en France pour profiter de vacances sport, culture et nature en famille. VVF, là où tout commence.
Bah bravo Julien, bonnes vacances à vous.
Toulouse oui, remontant les gains, mais ils n'ont pas gagné au quiz d'Estelle.
Bah oui. désolé Isabelle.
C'est pas grave. À la prochaine fois.
Ouais, c'était un plaisir de jouer avec vous,
merci
Isabelle.
Merci beaucoup Estelle. Bonne fin d'après-midi.
Bah merci beaucoup. Bon, c'est la fin d'Estelle Midi.